Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Depuis le début de l'année, plus de 2000 personnes ont perdu la vie en Méditerranée en tentant de quitter leur pays pour trouver une terre d'asile en Europe. Ils viennent de Syrie, d'Irak, d'Érythrée, d'Afghanistan, du Yémen, sont prêts à prendre tous les risques possibles pour fuir les persécutions, les conflits, le terrorisme, la misère. Le parcours migratoire devient alors un véritable calvaire. Les rescapés sont traumatisés par ce qu'ils ont vécu. Ils ont souffert de la faim, de la soif, ont vu leurs proches mourir sous leurs yeux, ont eu peur de mourir, se sentent coupables aussi d'être restés en vie. Difficile donc de se reconstruire dans de telles conditions après avoir vécu de telles violences. À l'occasion de la Journée mondiale des migrants qui aura lieu samedi, nous parlons donc du traumatisme dont souffrent les migrants suite aux difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur parcours pour atteindre l'Europe. Alors quel traumatisme laisse ce parcours migratoire? Comment se reconstruire? Quels sont les moyens de prise en charge psychologique des survivants? Comment aussi aider les familles qui n'ont plus de nouvelles de leurs proches partis en Europe? On en parle avec le docteur Claire Mestre, qui est psychiatre anthropologue en charge d'une consultation transculturelle au CHU de Bordeaux, co-rédactrice en chef de la revue L'Autre, clinique, culture et société. Également avec nous, le docteur Arnaud Weiss, qui est directeur général du COMED, le comité médical pour la santé des exilés. Dans cette émission, on aura également au téléphone le docteur Chakoui Azouri, qui est chef du service du département de psychiatrie à l'hôpital Montliban à Beyrouth, au Liban. Et en fin d'émission, on parlera de l'impact des pesticides sur la santé des enfants. Docteur Arnaud Weiss, bonjour.
Bonjour.
Docteur Claire Mestre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bordeaux, dans les studios de France Bleu Gironde. Le gouvernement français vient d'annoncer un plan pour une meilleure prise en charge des migrants en France. Il s'articule en fait autour de trois axes visant à mieux accueillir d'une part les demandeurs d'asile, mieux mettre à l'abri et mieux lutter contre les filières de l'immigration irrégulière. Docteur Arnaud Weiss, qu'est-ce que vous pensez de ce plan?
Deux choses. D'abord, tant mieux s'il y a des places comme c'est annoncé d'hébergement supplémentaire. Une des catastrophes à l'heure actuelle qu'on constate au quotidien dans l'ensemble des associations de soutien aux exilés, c'est l'absence de solution d'hébergement d'urgence qui touche vraiment toutes les personnes en situation de vulnérabilité. Ça inclut des femmes enceintes, des personnes handicapées, des mineurs isolés qui se retrouvent plusieurs jours, parfois plusieurs semaines à dormir dans la rue. Donc c'est bien, je crois qu'on annonce 10 000 places supplémentaires. Le problème, c'est que c'est pas du tout suffisant par rapport à l'ampleur des besoins. Pour ce qui est de la région Île-de-France, par exemple, on sait que le SAMU social de Paris n'a pas les moyens de répondre favorablement à 50% des demandes qui lui sont faites chaque jour. Donc on est très très loin.
Donc ça veut dire que la moitié continue à dormir à la rue.
Ça veut dire que la moitié va continuer à dormir à la rue, exactement.
Claire Mestre, vous avez peut-être envie de réagir aussi à ce plan?
Effectivement, je crois que la question de l'accueil est absolument déterminante sur la future santé psychique des migrants, avec des nouvelles formes de migration, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui partent seuls ou qui partent en tous les cas parfois à plusieurs et qui arrivent seuls. Donc évidemment, la question de l'accueil va être fondamentale.
Docteur Claire Mestre, vous dites quelque chose d'absolument essentiel en disant ça. C'est pas un luxe de leur donner un hébergement, c'est juste absolument indispensable, justement, entre autres pour la santé mentale.
Oui, bien sûr. Alors après, il s'agit de savoir quelle sorte d'hébergement, parce que bon, moi je vais parler de Bordeaux. Ce que nous voyons, ce sont par exemple des femmes ou des jeunes hébergés en hôtel, très loin des centres-villes, très loin de justement tout ce qui est l'accès aux soins ou tout simplement pour se nourrir, ou des mères seules avec leur bébé dans un hôtel où elles n'ont pas de quoi faire chauffer par exemple un biberon. Donc effectivement, donner un toit, il faut savoir quel toit également, parce que si on provoque encore plus d'isolement et de détresse, on a raté l'objectif, quoi.
Arnaud Weiss, on parle de migrants, le terme n'est pas forcément bon parce qu'il recouvre des réalités différentes.
Alors effectivement, il est souvent pas défini ce terme, mais au moins il a l'intérêt effectivement de recouvrir des réalités différentes. C'est-à-dire qu'au fond, là, dans cette expression du débat public de migrants, on recommence souvent à parler d'exilés. Nous, au COMED pour la santé des exilés, on trouve que le terme d'exilé est intéressant au sens où c'est pas un statut administratif particulier. C'est précisément d'abord mettre l'accent sur le traumatisme de l'exil. Et après, on va parler, en parlant de ces migrants ou de ces exilés, de personnes, comme vous l'avez dit en introduction, qui vont fuir des violences, des persécutions, qui sont des demandeurs d'asile ou pas. Il y a des personnes qui choisissent de ne pas demander l'asile. Et parmi les demandeurs d'asile, tous ceux qui deviennent réfugiés ou qui, dans leur grande majorité depuis 20 ans en France, ne deviennent plus réfugiés, contrairement à ce qui se passait il y a 30 ans, mais aussi toute une série de personnes en situation d'exil également très vulnérables, qui ne sont pas des demandeurs d'asile, mais qui se retrouvent en situation d'exil parce qu'ils sont mineurs isolés, parce qu'ils sont atteints d'une maladie grave. On parle parfois dans ces émissions des étrangers malades, des personnes qui sont venues pour toute une série de raisons et qui un jour découvrent qu'ils sont atteints d'une maladie grave et qui ne pourra pas être soignée dans leur pays d'origine. Donc, toute une série de situations, on voit de plus en plus souvent des femmes, pas seulement, mais beaucoup de femmes qui fuient leur pays pour des questions de violence intrafamiliale, de mariage forcé, qui vont pour certaines demander l'asile, pour d'autres non. Donc, au fond, ce terme de migrant...
Et c'est une raison d'ailleurs d'obtenir l'asile politique.
C'est censément une des raisons d'obtenir l'asile au titre de la Convention de Genève. De fait, ça recouvre effectivement beaucoup de situations de vulnérabilité.
Alors, tout neuf, Mandy est allé justement rencontrer Abdoul. Il a 16 ans. Il est parti de Gao au nord du Mali pour fuir la terreur des djihadistes. Il est arrivé en France depuis un an, hein, c'est presque jour pour jour. Sa traversée du Sahara puis de la Méditerranée a laissé des séquelles physiques et psychologiques. Avec l'aide d'associations comme Médecins du Monde, ce jeune Malien, Abdoul, tente de se reconstruire.
J'ai abandonné mon pays à cause de la guerre parce que je vivais au nord du Mali. Là, ce territoire a été occupé par des djihadistes. Ils imposent les charias.
Vous pouvez nous raconter un peu le parcours que vous avez pris jusqu'à arriver à Paris?
Je suis quitté de Gao, je suis parti à Bamako pour faire ma carte d'identité, mes pièces. Je suis parti de Burkina, après Burkina, du Niger. Après, on a préparé un convoi parce qu'il y avait les passeurs qui nous aident à traverser le Sahara dans les 4x4. Où on était à peu près 25 personnes dans ces 4x4. On a fait 4 jours sur le Sahara où on nous manquait de l'eau, de nourriture. On a pris d'autres cars pour nous amener à Tripoli. La Libye aussi, c'est chaud. Et je suis parti à la bord de la mer pour traverser la Méditerranée. À Sicile, j'ai pris les cars pour venir à Rome. Maintenant, de Rome, j'ai pris les TGV pour venir en France.
Dans quelles conditions s'est passé précisément le voyage?
C'était difficile parce que à peu près 100 personnes ou 110, parce qu'on ne peut pas tout compter le nombre. On avait 3 jours sur la mer. On avait souffrir sur la mer aussi. T'as pas des esprits stables, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de l'eau à boire. Vraiment, c'est difficile, ouais.
Quelle trace ce parcours a laissé sur vous?
Avant l'Italie, on a fait un choc. C'est la voiture qui a été renversée avec nous. Il y a des gens qui ont leurs pieds cassés, il y a blessure sur la tête. Moi, mon doigt ici, avec la tête ici, c'est gratté, quoi. Des fois, la nuit, j'ai rêvé à ça. J'ai fait des cauchemars sur les parcours, ça m'a joué sur moi.
Comment vous faites pour essayer de surmonter tout ça?
Bon, ici, en France, si tu n'as pas l'aide médicale ou encore la carte vitale, tu ne peux pas soigner par médecin. C'est comme ça, là. Elle a dit aussi, ils m'ont donné l'adresse du médecin du monde. Je suis accueilli par l'assistance sociale, Madame Pauline Pintou. C'est elle qui m'a beaucoup aidé à faire les démarches pour ma santé, quoi. J'avais beaucoup de difficultés dans ma tête.
Est-ce que vous avez déjà vu un psychologue?
Ils m'ont dit d'aller voir un psychologue. Pour le moment, c'est moi-même qui n'a pas voulu faire.
Comment vous avez fait pour surmonter ces cauchemars?
Avec le prise en charge de certaines associations. Maintenant, j'ai des esprits stables. Je fais mon école. Maintenant, je fais pas des cauchemars comme auparavant.
Dans quel état d'esprit vous étiez la première fois que vous avez posé le pied sur le sol européen?
J'étais soulagé parce que c'est pas pareil qu'en Afrique. En Afrique, j'ai vécu des tortures là-bas.
Qu'est-ce qui est le plus dur dans votre situation?
La nostalgie de ma maman, elle aussi, elle est au nord. Bon, moi, je suis ici. Et bien sûr, je suis en Europe, mais toujours, je n'ai pas des esprits stables parce qu'ils ont amené à corps, ils ont dans les situations difficiles. Moi-même, je connais les situations dans lesquelles ils sont. Des fois, je peux l'appeler une fois par mois. Vraiment, c'est le désordre total.
Comment envisagez-vous votre avenir maintenant?
J'espère qu'un jour, je vais m'en sortir. pour moi, ce qui peut me sauver, c'est l'école. Sinon, pour moi, c'est le chaos.
Qu'est-ce que vous direz à quelqu'un qui voudrait prendre ses bateaux, prendre le même chemin que vous pour venir en Europe?
Moi, je ne peux pas encourager quelqu'un de venir. Je ne peux pas. Parce qu'il pense que si on vit en Europe, on est à l'aise. C'est au contraire. Pour venir en Europe, si tu viens dans la route, tu fais des souffrances. Si tu arrives aussi, ça sera le plus pire aussi. Avant de rencontrer quelqu'un qui va s'occuper de toi, et c'est pas facile. Ici aussi, c'est d'autres problèmes qui est différent des parcours de la route aussi. Je peux pas encourager quelqu'un de venir. Je peux pas. Ouais. C'est que je viens, qui je connais moi.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, justement, nous parlons du traumatisme du parcours migratoire. Docteur Clermès, j'imagine que vous avez envie de réagir à ce témoignage d'Abdoul qui doit correspondre à ce que vous entendez, vous, en tant que psychiatre au CHU de Bordeaux.
Oui, bien sûr. Surtout que Bordeaux a la particularité d'accueillir beaucoup d'Africains. Il faut penser aussi à la migration en termes de filière. Donc, effectivement, nous recevons énormément de jeunes qui ont fui l'Afrique et dont le parcours ressemble beaucoup à celui que nous venons d'entendre. Ce qui met l'accent sur les nouvelles formes de migration, c'est-à-dire des jeunes qui partent seuls. Ça, c'est vraiment une donnée nouvelle, en tous les cas pour nous. Des jeunes mineurs, les femmes aussi, qui n'hésitent plus à partir, quels que soient les risques, je dirais, parce que si ce jeune dit « je n'encouragerai personne à partir », il faut savoir que l'exil procède aussi d'un désir de changement et que probablement que beaucoup de futurs exilés savent que ce sera difficile et que ça ne les empêche pas de partir. Donc, on a affaire à des mouvements de migration, voilà, qui procèdent de décisions hautement individuelles, que sont par exemple comme ce choix-là de partir. Alors, il y a plein de raisons de partir, évidemment, et c'est en cela aussi qu'il est difficile de cataloguer, parce qu'effectivement, il y a des exils politiques, mais ce sont toujours aussi des raisons qui sont mixtes, qui sont aussi économiques. Sans parler des femmes qui cumulent en effet beaucoup de raisons de partir.
Abdoul dit, on lui a proposé une consultation avec une psychologue, il en a pas voulu. Est-ce que vous êtes confronté aussi à cette question, ou finalement les gens comprennent assez vite l'intérêt de parler avec quelqu'un?
Oui, alors
oui, je dirais non,
que c'est-à-dire que nous ne prenons pas de demandes qui viennent directement des personnes exilées. Ce sont les professionnels les professionnels des institutions, des associations, qui orientent les personnes vers notre consultation, qui se veut une consultation spécialisée. Nous encourageons les psys d'une façon très large à accueillir des populations exilées, surtout avec la question de la langue, puisque évidemment Abdoul parle français, donc c'est beaucoup plus facile, mais certains exilés parlent pas suffisamment bien le français pour avoir une véritable, je dirais, psychothérapie. Alors c'est vrai qu'il y a tout un temps d'adaptation, parce que qu'est-ce que c'est que la psychologie pour des personnes en effet qui n'en ont pas l'habitude? Je dirais que tout se joue dans la façon dont on va accueillir et tout se joue dans la façon dont on va instaurer une relation de confiance. Et en fait, la psychologie ou la psychothérapie, généralement, on ne la comprend pas, mais on l'expérimente.
Voilà. C'est comme ça qu'on comprend l'intérêt, mais pour tout le monde,
voilà,
d'ailleurs.
Et pour tout le monde, exactement. C'est-à-dire qu'il y a un aspect pédagogique, c'est-à-dire expliquer quand même ce que c'est. Mais en fait, ça fonctionne dès que la personne va comprendre ce qui peut se passer dans celui-là et comment ça va l'aider. Alors, pas tant sur un plan matériel, mais sur un plan psychologique. Et ça, c'est tout l'enjeu, je dirais, de la psychothérapie des personnes, en plus, qui ont vécu des traumatismes graves et cumulatifs.
Docteur Arnaud Weiss, vous, au Comed, basé à Paris, vous prévoyez justement une prise en charge globale qui intègre aussi bien la santé physique que mentale.
Absolument, oui. Si on regarde les maladies graves les plus fréquentes dont sont atteintes les populations exilées, c'est les syndromes psychotraumatiques qui arrivent en premier. Bien avant, alors après c'est les maladies cardiovasculaires, les hépatites B chroniques, et on parle souvent de maladies infectieuses du type tuberculose et VIH, à juste titre parce que c'est grave, mais c'est beaucoup moins fréquent que le trauma, qui est le premier problème par son ampleur de santé des exilés. Ce qui fait que l'enjeu d'accès aux soins, qui est très important pour les migrants, c'est en particulier celui de l'accès aux soins de santé mentale. Et comme Claire Mestre vient de le dire, il n'y a pas d'accès aux soins de santé mentale s'il n'y a pas d'interprétariat professionnel pour, en gros, le tiers des exilés récemment arrivés en France qui ne parlent pas encore français.
Le traumatisme, il est lié à quoi? Est-ce qu'ils ont vécu dans leur pays d'origine, au parcours migratoire, aux difficultés qu'ils rencontrent en arrivant en France, ou d'ailleurs à l'ensemble?
L'ensemble de ces facteurs. secteur, c'est des choses qu'on peut mesurer dans un certain nombre d'associations ou de centres de soins. Pour vous donner quelques chiffres qu'on observe au Comed chaque année, c'est au moins 80% des personnes qui ont été victimes de violences, et on sait que on peut corréler, en gros un quart des personnes qui ont été victimes de torture, un tiers des femmes exilées qui ont été victimes de violences liées au genre, à leur condition de femme, et dans ces deux derniers cas, tant les tortures que les violences liées au genre, on sait que ça va donner 3 fois plus de risques de développer un psychotraumatisme grave.
D'où l'intérêt d'une prise en charge. On a Clément qui nous appelle de Lomé au Togo. Clément, bonjour.
Bonjour.
Clément, on vous écoute.
Oui, j'ai quitté le Congo RDC, je suis Congolais d'origine Tutsi. Ma mère est d'origine Tutsi. J'ai quitté en 2001, en avril 2001. J'ai quitté, j'ai traversé pour Brazzaville. Et Brazzaville, Pointe-Noire. Et Pointe-Noire, j'avais un peu de possibilités. J'ai pris mon avion pour le Bénin. Du Bénin, mon père, qui est au Niger, il y a possibilité d'arriver à Tripoli, en Libye, et puis de voyager. Comme j'avais un peu d'argent, je me suis dit, bon, je vais essayer d'avancer. J'étais accompagné de l'enfant de ma grande sœur que j'ai levé. Arrivé à Niamey, j'ai laissé l'enfant de ma grande sœur. Moi, j'ai avancé, j'ai dit avancer jusqu'à Gadez, un peu vers le sud. Et de là, on a pu avancer vers le petit village où on prend les camions, pour Tripoli. On nous a dit combien il faut payer, nous avons pu payer, nous avons vu les gens. Ils ont dit, bon, il faut faire des réserves d'autres, et ainsi de suite. On a pu prendre le nécessaire pour aller. On a fait au moins 5 jours. De 5 jours, on a aperçu quelques lumières. Et là, on a compris peut-être que ce sont le gardien, l'agent de sécurité ou bien le douanier. Mais à la poste de ces gens, on nous a fait descendre. Nous étions une vingtaine. On nous a fait descendre, on nous a demandé si quelqu'un avait encore quelque chose. Alors maintenant, de là, on a scindé un peu le groupe. Nous sommes allés, nous étions près d'un groupe de 19 personnes comme ça. Nous avons pu marcher toute la nuit. Vers la journée, on a observé maintenant un peu de lumière de loin. Alors on a compris que ce passeur nous a mené, quand nous sommes à la frontière de la Libye, on laisse aux mains des militaires. Arrivé à la frontière, il a eu un fouille systématique. Nous étions dépossédés de tout. Tout a été dépossédé. Et ils ont maintenant conseillé de prendre certains véhicules qui étaient là et ils vont s'en charger. Ils ont remis un peu d'argent, la monnaie libyenne, pour essayer de vivre avec sur la route. Nous sommes partis, et quand nous sommes partis, il y avait certaines personnes qui nous ont conseillé d'approcher certaines communautés noires. Ce qui a été fait, nous sommes arrivés. Quand nous sommes arrivés, la vie était intenable. Parce qu'on ne pouvait pas marcher facilement. On ne pouvait pas facilement aller de gauche à droite. Il fallait s'habiller un peu comme les musulmans. Il fallait laisser les loups qu'on avait. Il fallait essayer d'être confondu comme tout le monde. Et puis, à moins de faux pas, on était tabassé. Je me suis dit, dans quel merde je me suis mis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé de demander comment on a un voyage. On m'a dit qu'il y a un bateau. On m'a dit quel genre de bateau. Ils m'ont parlé, ils m'ont expliqué. Je me suis dit, ça, c'est une aventure. Je me suis embarqué. Et les travaux, il fallait qu'on se fasse des travaux de construction. Et je ne maîtrise pas. Alors, heureusement pour moi, j'ai croisé un militaire centrafricain qui était officier là-bas avec son général. Je lui ai parlé. Il m'a dit, au fait, ce que je peux t'aider, c'est s'il y a un vol, je peux faire de sorte que tu puisses retourner vers Cotonou.
C'est ça. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, Clément, c'est que vous avez pris conscience que la traversée, là, c'était trop dangereux et vous vous êtes dit, il vaut mieux faire demi-tour.
Oui, parce que je n'avais pas l'argent. Tout l'argent était construit.
Et vous n'aviez pas l'argent.
Travailler avec des travaux de construction que je ne maîtrise pas, avec tout le risque, avec quelle façon de se payer. Puis, moins de fois, vous êtes corrigé sérieusement. Traiter un esclave.
Et toutes les difficultés que vous avez rencontrées, j'imagine que ça laisse encore des séquelles. Aujourd'hui, vous y pensez souvent?
Oui, j'y pense souvent parce que quand ils sont rentrés avec presque zéro, j'ai pu reconstituer la vie. Mais avec l'argent que j'avais, au moins 4 millions, 5 millions, quand je suis arrivé, je pouvais bien, je suis arrivé en 2001. Aujourd'hui, ça fait 14 ans que j'ai quitté le pays. J'avais 36 ans à l'époque, aujourd'hui, j'ai 50 ans, je n'ai rien fait de spécial. Et chaque fois que je pense à cela, ça me traumatise, mais actuellement j'ai dit me reconvertir en informatique.
Et 14 ans après, en tout cas, ce que vous dites, Clément, c'est que vous y pensez toujours. Clément, vous restez en ligne avec nous. On se retrouve dans 3 minutes juste après les informations et on fera réagir justement nos deux invités en plateau à votre témoignage. On se retrouve juste après les infos.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons du traumatisme dont souffrent les migrants suite aux difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur parcours pour atteindre l'Europe. On en parle à l'occasion de la Journée mondiale des migrants qui aura lieu demain samedi. Mes invités, le docteur Claire Mestre, qui est psychiatre, anthropologue, en charge d'une consultation transculturelle au CHU de Bordeaux, co-rédactrice en chef de la revue L'Autre, clinique, culture et société, et le docteur Arnaud Weiss, qui est directeur général du COMED, le comité médical pour la santé des exilés. Juste avant les informations, on était en ligne avec Clément, qui est toujours là d'ailleurs et qui nous écoute. Clément nous a raconté son parcours partant de la République démocratique du Congo jusqu'à la Libye et puis l'impossibilité après parce que pas assez d'argent pour faire la traversée en Méditerranée et le traumatisme et même 14 ans après, finalement un traumatisme qui reste présent. Docteur Claire Mestre, on parle pas beaucoup de ces gens-là qui finalement étaient justement obligés de faire demi-tour et ont pas forcément de prise en charge psychologique dans leur pays d'origine.
Oui, Clément parle de quelque chose, en effet, qui est pas bien connu, c'est-à-dire d'abord la longueur des parcours. C'est vrai que nous pouvons accueillir des exilés qui ont plusieurs années, voire des dizaines, enfin une dizaine d'années de parcours. Probablement, alors ça, on les voit pas arriver, mais il y en a qui repartent, et ou tout au moins qui parfois n'arrivent pas à repartir parce que coincés dans des lieux.
Il y en a qui restent des années en Libye, justement.
Voilà. Alors il y a effectivement la question de la Libye qui revient aussi dans les témoignages que nous pouvons avoir. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi dans ces parcours très longs, ce sont des parcours où les risques d'être exploités sont absolument majeurs, alors particulièrement dans les pays comme la Libye, des pays de non-droit. Et pour les femmes, c'est une exposition majeure également à la prostitution, qui est la seule façon de gagner sa vie. Donc, les femmes, on les entend moins. C'est-à-dire, par exemple, pour les mineurs isolés étrangers, nous, de notre expérience et de nos enquêtes, nous avons beaucoup de garçons. Et c'est la question qu'on peut se demander, mais où sont les filles? Est-ce qu'elles ne partent pas? Ou est-ce que justement, elles sont beaucoup plus exploitées et elles disparaissent beaucoup plus sur le chemin. Donc ça, c'est une vraie question. Autre chose que met en exergue Clément, c'est la question de la rencontre. Il y a des rencontres sur le chemin de migration qui vont être importantes parce qu'elles vont sauver la vie, d'abord, et puis elles vont réorganiser, je dirais, la migration, soit pour rester dans le pays où on ne pensait pas rester, soit évidemment pour revenir.
Il y a des mauvaises rencontres, mais il y a des bonnes rencontres aussi.
Voilà, c'est ça. Alors justement, pour arriver à la question de la reconstruction, il s'avère que dans la reconstruction psychique, je voudrais d'abord mettre l'accent, bien sûr, sur ce qui est l'aspect positif de mon métier, c'est-à-dire la psychothérapie, mais il faut vraiment comprendre aussi que c'est une histoire collective, c'est-à-dire que le devenir des traumatismes dépend en effet du soin psychique, mais aussi dépend du type d'accueil que l'on peut faire à ces populations-là.
Un bon accueil peut atténuer le trauma.
Va être déterminant sur le devenir du trauma. Je voudrais aussi dire que le traumatisme, c'est certes des signes positifs, hein, ils en parlent et vous leur demandez, c'est-à-dire les cauchemars notamment, et puis beaucoup d'autres signes comme ça positifs, mais c'est aussi les signes négatifs, c'est-à-dire la honte par exemple, la difficulté de pouvoir en parler, parce que dans ces chemins migratoires, ce que l'on comprend, c'est les pertes qui sont absolument monumentales. Alors il y a les pertes humaines évidemment, parce qu'il y a des personnes qui partent accompagnées avec d'autres, qui vont les voir mourir parfois sur le chemin. Les pertes aussi de son pays, de la famille, des pertes aussi d'idéal, parce qu'on part souvent avec un idéal de mieux et qu'on se rend compte au fur et à mesure de l'avancée dans le trajet migratoire que bon, on va pas y arriver. Donc ça, c'est une perte symbolique extrêmement importante. Et le traumatisme, à ce moment-là, dans sa conception très élargie, c'est toutes ces choses négatives qu'on ne dira pas pendant des années. Il y a des choses qui vont émerger des années après nous. C'est ce qui nous frappe. C'est-à-dire que en tant que psy, très attaché à l'écoute, on est frappé par le silence. C'est-à-dire que les gens viennent, ils ont envie d'être aidés. Mais surtout, ils n'ont rien à dire.
Au début, c'est impossible de parler.
Exactement. Et puis, je dirais, pour utiliser une image, ils ont perdu le fil narratif de leur propre histoire. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de perte, d'amputation, de ne plus être en accord avec soi-même, d'être profondément modifié aussi. Le traumatisme, c'est le sentiment de ne plus être comme avant. Et que pour se reconstruire, c'est tout ça qu'il va falloir reconstruire, c'est-à-dire une reconstruction d'avant le trauma, comment on a vécu avant de partir et qu'est-ce qu'on peut être ici. C'est pour ça que la rencontre psychothérapeutique peut être une chance inouïe pour les personnes, justement d'avoir l'opportunité de se reconstruire autrement, d'où l'importance de la langue, dans une autre langue par exemple, et puis avec d'autres appartenances, d'autres liens. Mais je voudrais insister sur les aspects négatifs qui sont trop souvent ignorés, c'est-à-dire qu'on va juger.
C'est vraiment.
Et puis alors de l'accueil et des signes négatifs, c'est-à-dire qu'on va jauger un individu sur les signes positifs, par exemple avec tout l'enjeu de pouvoir rester en France pour question de soins, mais attention à tous les signes négatifs où la pensée est très abrasée du fait d'une perte de soi-même et de cette capacité à penser.
Docteur Arnovet, je vous vois faire oui de la tête, c'est exactement ce que vous voyez au comète.
Oui, bien sûr. L'arrière-plan et les fondamentaux du soin, c'est d'abord la relation, la réparation, la reconnaissance. Ce mot de reconnaissance, je voudrais insister aussi, parce que quand on parle de la reconnaissance de la protection au sens juridique, la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, ou d'une protection fondée sur tel ou tel
donc
droit fondamental.
Donc la reconnaissance des violences qu'ils ont subies dans leur pays d'origine.
Ça, c'est deux dimensions. La première qu'on voit le plus souvent, c'est les effets sur les droits attachés au statut de réfugié ou à telle ou telle qualité de personne reconnue. Mais c'est d'abord une reconnaissance effectivement du parcours, des violences subies, de croire aussi les gens. Indépendamment de la variété des parcours, de croire, et notamment pour les acteurs de santé mentale, il y a une vérité psychique qui est pas forcément des fois le travail, par exemple, d'organisations comme l'OFPRA, c'est de dire, ah ben là, il y a une contradiction entre ce que vous dites ici et ce que
l'OFPRA,
vous dites
là. L'OFPRA, c'est l'organisme qui finalement décide du
français,
statut de réfugié
de protection
ou pas.
Des réfugiés apatrides ou d'autres organisations.
Ce que vous êtes en train de dire, si je comprends bien, c'est que, par exemple, justement, la non-reconnaissance par l'OFPRA du statut de
réfugié. C'est la première des violences institutionnelles qui est faite aux exilés, hein. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, en France et en Europe, dans ces pays où la Convention de Genève est de moins en moins appliquée, une partie du travail que font les soignants par rapport aux demandeurs d'asile, pour parler là précisément des demandeurs d'asile, c'est les préparer à l'idée que malgré tous leurs efforts, c'est pas sûr que ça va marcher. Puisqu'on sait que, à l'heure actuelle, il y a en gros 10 000 personnes qui seront protégées chaque année en France au titre de l'asile. Peut-être un petit peu plus l'année passée, tant mieux si ça se confirme.
Et combien de déboutés?
Mais indépendamment du nombre de demandes. C'est-à-dire que le droit d'asile est géré à la façon d'un quota. Ça veut dire que les gens croient...
Ce qui n'était pas le propre de la Convention de Genève.
C'est pas du tout précisé comme ça dans la Convention de Genève. Les gens croient que c'est un examen, que s'ils remplissent les critères, ils vont obtenir une protection.
Or,
en fait, ça prend l'apparence d'un concours. Et donc, avec toute l'injustice qu'il va y avoir dans un concours. Donc effectivement, la première blessure et donc la première prévention, c'est qu'au moins, pour les soignants, il y ait une grande partie de reconnaissance de l'histoire vécue, indépendamment du résultat des démarches.
On a au téléphone le docteur Chouaki Azouri, qui est chef du département de psychiatrie à l'hôpital Mont-Liban, à Beyrouth, au Liban. Docteur Chouaki Azouri, bonjour, merci d'être avec nous dans Priorité Santé. Il y a plus d'un million oui. De réfugiés syriens au Liban, pour une population de 4 millions d'habitants. Je voulais qu'on rappelle ces chiffres en termes de proportion, parce que quand on dit en France qu'on accueille beaucoup de migrants, rappelons-nous ce chiffre, hein, plus d'un million de réfugiés syriens au Liban pour une population de 4 millions d'habitants. De quoi souffrent ces réfugiés, justement, en termes de traumatisme ?
Écoutez, si vous me demandiez comment font les autorités libanaises et les populations locales pour accueillir le quart de notre population, je vous dirais, je ne sais pas, vraiment. Maintenant, les réfugiés n'ont pas les mêmes manifestations cliniques de pathologie que les migrants. C'est plus facile d'aider et de soutenir psychologiquement un réfugié qu'un migrant, par définition, parce qu'il est en migration et en déplacement. Alors, si vous voulez, il y a un point commun quand même avec les réfugiés du monde entier, c'est que quand quelqu'un s'enfuit de son pays, une des premières choses qu'il éprouve, c'est un sentiment de culpabilité inconscient qu'on appelle la culpabilité du survivant. C'est-à-dire, forcément, un réfugié ou un migrant laisse toujours derrière lui des parents âgés, des frères, des sœurs, éventuellement des enfants, quand lui s'en va et donc se réfugie dans un pays autre. Donc ce sentiment de culpabilité entraîne des troubles essentiellement psychosomatiques,
qu'on n'arrive pas à repérer comme tels, c'est-à-dire qui ne sont pas spécifiques, d'où la difficulté pour les médecins qui accueillent les réfugiés de pouvoir repérer ce sentiment de culpabilité. Donc inconscient.
Docteur Azoury, je voudrais juste faire réagir Claire Mestre, qui est psychiatre à Bordeaux. Docteur Claire Mestre, sur cette question de la culpabilité du survivant, dans le témoignage en tout début d'émission, on l'a entendu avec Abdoul, qui s'inquiète beaucoup de sa famille restée sur place.
Oui, bien sûr, ça c'est un point commun à tous les migrants et tous les exilés. Je voudrais mettre l'accent sur des formes de migration pour lesquelles cette culpabilité s'accompagne aussi de la honte, qui est pas tout à fait la même chose que la culpabilité, et sur les formes aussi, en effet, qui peuvent être trompeuses et que les psys non habitués, je dirais, auraient de difficultés à repérer. Alors, je dirais par exemple, bien sûr ceux qui restent, mais ceux qui sont morts sans sépulture. Parce que nous voyons chez les réfugiés des personnes qui ont fui la guerre. Il ne faut pas oublier que dans la guerre ou voir les génocides, puisqu'on a parlé aussi de Rwandais Tutsi et de Congolais Tutsi, il y a aussi l'idée que il y a des fantômes qui vont traîner et ça fait appel à autre chose que, alors bien sûr à la culpabilité, mais à d'autres formes de deuil, on va dire, qui vont durer toute la vie, des deuils qui ne pourront jamais être totalement accomplis, où le psychisme va être envahi de fantômes, d'où la question géopolitique, c'est-à-dire en effet pouvoir repérer aussi chez certains exilés d'où ils viennent, ce qu'ils ont vécu, même si on ne peut pas toujours tout savoir, qui va aussi nous éclairer sur des formes psychiques qui vont être extrêmement déroutantes en effet pour le psychiatre.
Ce qu'ils ont vécu. Docteur Azoury, j'aurais une dernière question à vous poser. Qu'est-ce que vous qui êtes psychiatre, qu'est-ce que vous arrivez à mettre en place dans les camps de réfugiés syriens au Liban pour aider justement la population sur ces questions du traumatisme? Est-ce que vous arrivez à faire quelque chose ou le travail est d'une telle ampleur que c'est très compliqué?
C'est compliqué bien sûr, mais il y a une très grande partie des ONG internationales qui sont sur place, comme du Monde, Médecins Sans Frontières, Handicap International, et ils sont aidés par des psychologues qui sont bien formés, souvent de jeunes psychologues bien formés. J'en ai connu une centaine depuis la guerre de 2006, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années, si vous voulez, et bon, on arrive à travailler ensemble, à insister précisément sur cette question du deuil impossible, sur la question de la répétition du traumatisme, parce que la répétition du traumatisme dans les rêves, par exemple, qu'on appelle les rêves traumatiques, ont une importance thérapeutique pour les personnes. Donc il faut savoir que ce n'est pas si pathologique que ça de rêver à répétition du traumatisme, parce que c'est une façon de devenir actif et de dominer, de surmonter le traumatisme subi. Donc, il y a des associations, l'État fait ce qu'il peut, il y a des psychologues sur place, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, on imagine mal comment le quart de la population est un quart de réfugiés par rapport aux trois quarts. Mais on arrive, enfin autant que faire se peut.
De les aider. Merci beaucoup, docteur Azoury. Je rappelle que vous êtes chef du département de psychiatrie à l'hôpital Mont-Liban, à Beyrouth, au Liban. Docteur Arnovay, c'était important aussi de rappeler ces chiffres sur l'ampleur de la migration. C'est pas l'Europe qui accueille le plus grand nombre de migrants.
Pour les Syriens, c'est particulièrement emblématique. Ils sont accueillis de manière totalement dérisoire. Et un certain nombre d'associations, dont l'ANAFE, qui intervient pour défendre les étrangers dans les zones d'attente en France, témoignent quotidiennement de tous les obstacles qu'on met sur le parcours des Syriens pour qu'ils ne viennent pas en France demander l'asile. Il y a, mais sans comparer jusque par rapport au Liban comme on vient de le faire, la France a accueilli 20 fois moins de réfugiés syriens que l'Allemagne par exemple. Donc oui, il y a des écarts qui sont considérables et globalement, ce n'est pas en Europe et en Amérique du Nord que sont accueillis l'immense majorité des réfugiés, en tout cas bien moins qu'ils ne pourraient, qu'ils ne devraient le faire.
Ce sont souvent toujours les pays limitrophes, c'est l'exemple du Liban, mais on voit la même chose sur le continent africain. On a Abraham qui nous appelle du Mali. Abraham, bonjour.
Bonjour Claire.
On vous écoute, Abraham.
Alors, l'épineuse question de l'immigration clandestine demeure le talon d'Achille de nos politiques ici en Afrique.
Mais je crois que vous aviez une histoire très précise à nous raconter, Abraham.
C'est ça. Le malaise. Alors, les faits remontent il y a 4 à 5 mois de cela. Un ami d'école du lycée, on a fait les lycées ensemble, lycée Lomba Baba Konaré. Je dis c'est une teinte pensante parce qu'il avait une maîtrise en droit ici, à l'université de Bamako. Il s'est rallié à un compagnon pour tenter la traversée vers la Méditerranée. Ils sont d'abord allés en Algérie, puis ils ont relié la Libye. Et c'est de là où Ils ont pris le bateau de l'enfer qui n'est jamais arrivé à destination. Mais son compagnon, lui, il n'a pas pu embarquer pour faute de payer tous les 1200 euros environ, 800 000 francs CFA. Ben lui, un mois, 45 jours après, il est revenu à Bamako, mais avec un traumatisme dont on ne peut pas parler. Il était de façon comme agoraphobe, il avait peur de tout le monde. Son regard le trahissait, quoi. Mais après, il a craché le morceau, c'était... Personne n'en croyait pas. Et le bateau n'est pas arrivé à destination, comme ça.
C'est ça, le bateau a coulé en mer et donc vous avez perdu cet ami. Vous sentez justement, c'est très difficile cette question de ne pas avoir de nouvelles, être sûr de savoir ce qui s'est passé.
C'est ça, c'est très difficile. Et puis c'est comme si quelqu'un est là, on a pris quoi, un homme effacé, c'est difficile à expliquer. Il était là tout près, joyeux, et d'un côté on dit que le bateau a chaviré au large de la Libye, on n'arrive pas à quoi. C'est comme, moi je me suis dit que plus jamais ça, quoi. J'essaie, c'est comme si je suis en mission pour dire aux autres amis, même ceux qui ont dérouté du système scolaire, de leur dire qu'il faut trouver une solution ici, en amont, quoi.
Plus ça. Docteur Clermès, une réaction sur cette question du traumatisme de l'entourage?
Oui, alors je voulais parler en effet des mères ou des parents qui laissent leurs enfants aussi avec des questions qui demeurent sans réponse. Et c'est vrai que c'est une question qui est difficile pour nous quand on voit alors peut-être plus souvent des femmes qui sont parties en catastrophe. Je pense on reçoit beaucoup de Congolaises de Congo Kinshasa et qui demeurent alors très accablées parce qu'elles ont vécu évidemment, mais aussi par le fait d'avoir laissé des enfants dont elles sont sans nouvelles. Et on a eu des histoires absolument dramatique avec des retrouvailles. Alors il y a quand même des retrouvailles, c'est-à-dire des enfants qui arrivent sur le sol français et qui ont eux-mêmes vécu des choses absolument horribles, comme des enfants des rues avec toutes les accusations d'enfants sorciers, avec ce qu'on sait, ce qu'on fait subir aux enfants sorciers. Et c'est une question effectivement qui dépasse en effet la question psychiatrique, parce que il n'y a pas de réponse à ça. Il y a juste un acte, je dirais, humain qui est la consolation, l'accompagnement. Il n'y a pas d'autre réponse, quoi. C'est difficile, c'est tragique. Et c'est vrai que ces personnes-là sont marquées par ce qu'elles ont subi elles-mêmes, mais aussi par ce que subissent leur famille. Et sur le plan psychiatrique, on reconnaît ce type de traumatisme qui n'a pas touché la personne elle-même, mais
son entourage,
un membre de la famille, voilà, c'est ça. Ce qui veut dire aussi que je voudrais juste aussi mettre l'accent sur ceux qui écoutent tout cela. Alors nous, évidemment, en tant que professionnels et toutes les associations et les accompagnateurs qui écoutent ces récits, c'est en même temps fondamental. C'est-à-dire que le devenir des récits, c'est aussi de s'intégrer aux grands autres récits, qui est le récit de nos propres vies. Mais c'est aussi soigner son écoute. La question du soin de l'écoute est extrêmement importante. C'est-à-dire que les personnes, et ça a été dit aussi en filigrane, ne vont pas parler par la crainte d'abord de ne pas être crues, mais aussi par la crainte de provoquer chez l'autre autant de désarroi qu'ils en ressentent eux-mêmes. Vous voyez, ça, il y a une espèce de précaution du traumatisé pour ne pas...
Pour vous protéger, agresser. Vous, en fait.
Exactement, mais tout le monde, c'est-à-dire effectivement le soignant, mais aussi ceux qui sont en charge de les écouter. Voilà, donc c'est une donnée importante, c'est-à-dire que dans l'accueil, il y a... Alors, on a parlé de la formation des psychologues, évidemment, des jeunes psychologues qui vont dans les camps de réfugiés, c'est fondamental, mais d'une écoute emboîtée, c'est-à-dire qu'il faut aussi écouter ces psychologues qui reviennent, les aider et soigner vraiment cette absolue attention à l'autre qui va dire ou qui va dire à retardement, être attentif à la façon dont on va accueillir. Et souvent la première réaction que nous avons à des récits incroyables comme ceux qu'on a entendus, c'est de dire mais c'est pas possible, là c'est une réaction humaine, hein, c'est-à-dire une réaction immédiate tout à fait humaine, c'est de dénier, dire c'est pas possible. Et le savoir donc, hein, que on va parfois réagir à chaud comme ça. Donc il y a tout un travail autour de ça, parce qu'on encore une fois, le trauma et les traumas très graves que subissent ces exilés dépassent la seule question psychiatrique. Il y a vraiment des questions qui demeurent sans réponse, et il va falloir d'ailleurs s'atteler dans l'accueil des migrants à toutes ces questions-là.
Docteur Arnovès, juste un mot de conclusion, parce qu'on arrive à la fin de cette émission.
Peut-être deux, mais courts, pour réagir par rapport à ceci. En effet, comme le dit Claire Mestre, c'est important de savoir que, vu l'ampleur de ces traumatismes, il y a un vrai enjeu sur la préservation aussi de la santé mentale et des capacités de soins des associations et des professionnels de santé. C'est contagieux, le traumatisme, la dépression. Or, on est dans un contexte où, au lieu de conforter ces soignants et ces associations, il y a de moins en moins de moyens alloués à ces associations. Donc là, on est vraiment dans un cercle vicieux très dangereux. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une tentative, notamment dans le projet de réforme de l'asile à l'heure actuelle en France, de substituer les professionnels de santé mentale et de mettre à la place des agents du ministère de l'Intérieur pour faire, je cite, du dépistage des vulnérabilités psychiques. Et cette émission montre bien que c'est invraisemblable devant la complexité des traumatismes dont on parle de trauma complexe dans certains cas, notamment avec la honte, la culpabilité, que ça n'est pas par un non-professionnel de santé mentale et encore moins en cochant des cases comme c'est prévu dans certains dispositifs de l'OFI, de l'Office français d'information de l'immigration, qu'on va pouvoir répondre à aux enjeux du repérage, de l'orientation, de l'accès aux soins et de la prise en charge de santé mentale des exilés.
Claire Mestre, juste un mot de conclusion. Je suis frappée dans tout ce que vous m'avez dit, de ce que vous avez insisté sur la question des femmes. On n'a pas eu de témoignage aujourd'hui de femmes. Oui, c'est un peu une nouvelle question. On peut dire ça.
Pour nous, dans l'équipe, à Bordeaux, oui, ça a été effectivement une nouvelle question. D'abord, par rapport aux récits, justement, puisqu'on a écouté des récits d'exilés, c'est des récits incroyables. Vraiment, puisque ça a été dit, le début des violences sont souvent des violences domestiques dans des pays dans lesquels le statut de la femme est absolument effroyable. Je parlerai juste du Nigeria, où on a une grosse migration à Bordeaux de femmes nigérianes, et qui, quand elles commencent à raconter, en effet, c'est une telle cumulation de traumatismes, de violences qui commencent par des violences domestiques, des violences liées au genre, des violences sur le parcours de l'exil et sur le territoire français, n'oublions pas. Nous avons un grand nombre de témoignages où les viols se passent sur le territoire français, ce qui pose la question de toutes les effectivement du manque d'hébergement, mais de l'exposition à des femmes qui sont sans repère et qui sont vulnérables du fait de leur genre. Ça, c'est vraiment important. Donc ça a été une question vraiment, parce que il s'agit bien sûr, on l'a dit, d'accueillir, d'écouter, mais de mobiliser aussi les institutions, car les institutions, enfin, ça a été dit sur l'OFPRA et toute notre tout ce qui est mis en place pour mal les accueillir. D'ailleurs, il y a toutes les institutions de soins, les PMI, etc. C'est-à-dire qu'il faut absolument, et c'est ce qu'on fait sur Bordeaux, les sensibiliser pour que la dernière des violences n'arrive pas, c'est-à-dire la violence institutionnelle et la violence du rejet, et que ça, cette violence institutionnelle, si vous voulez, elle est faite de choses qui vont être, alors par exemple, ne pas avoir d'interprète, mal accueillir, ne pas croire l'autre, dénier ses droits, etc. Et je voudrais juste finir par la question de la reconnaissance, puisque ça a été dit par Arnaud Weiss, évidemment. Elle est déterminante, mais je crois que le devenir psychique de ces gens-là se noue autour de la reconnaissance. La reconnaissance, évidemment, institutionnelle, s'ils peuvent avoir un statut de réfugié politique, tant mieux. Mais d'où l'importance fondamentale des associations, et c'est vrai que Arnaud, il est très important d'écouter ce qu'a dit Arnaud. C'est-à-dire que cette reconnaissance est une reconnaissance aussi citoyenne, c'est-à-dire à défaut d'avoir une reconnaissance politique, officielle. Le rôle des associations, c'est aussi de donner à ces citoyens-là, qui seront les futurs citoyens français, une forme de reconnaissance humaine. Et ça, c'est absolument déterminant.
Et là, on a tous une responsabilité quand vous parlez de cet accueil des citoyens sur le regard qu'on renvoie à ces migrants et à ces réfugiés.
Tout à fait. Plus particulièrement, effectivement, des associations, si vous voulez. Parce que, en effet, qu'est-ce qu'on retrouve dans les associations? On retrouve des gens extrêmement volontaires. C'est important, ça, de le souligner. C'est-à-dire qu'il y a des gens, effectivement, qui vont donner une grande partie de leur temps, de leur disponibilité pour accueillir. Alors, ça passe d'abord par eux, évidemment. Après, il y a bien sûr le reste de la société, évidemment.
Juste une toute dernière question. Vous avez parlé en gros de la violence de l'accueil qui rajoutait, je dirais, un handicap et du traumatisme. Ce que vous nous dites là, est-ce que vous arrivez à vous faire entendre des autorités là-dessus? Parce qu'on sent bien que c'est au niveau des autorités qu'il faut que ça bouge.
Alors, je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage, évidemment, entre ce que nous voyons sur le terrain et ce que l'on peut, ce qu'on peut transmettre et ce qui peut être entendu, évidemment. Surtout qu'on n'a pas du tout les mêmes objectifs tous. Alors, je mettrais juste l'accent sur ce que connaît bien aussi Arnaud, c'est-à-dire les collectifs d'associations. Je crois qu'il ne faut jamais se décourager. D'abord, c'est une grande tentation pour les associations de se décourager, de dire bon, basta. On arrête, quoi, parce que c'est plus possible. Donc, les collectifs, la rencontre avec, effectivement, les politiques, les institutionnels, et le sentiment, alors, de lutter contre l'impuissance, hein, et d'avoir des petites victoires, je dirais, des toutes petites victoires, qui finissent, je dirais, fuser et aussi.
Et montrer l'utilité de votre travail.
Oui, et puis arriver parfois à des hommes et des femmes politiques de bonne volonté qui vont quand même écouter. Voilà, mais c'est vrai, il faut lutter contre l'impuissance, c'est déterminant.
Merci beaucoup, docteur Claire Mestre. Merci également, docteur Arnaud Weiss. Merci à France Bleu Gironde qui nous a permis d'établir cette liaison avec Bordeaux, avec vous, Claire Mestre. Lundi, nous parlerons du don d'organes et de la greffe. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant nous faire part de vos questions ou de vos témoignages, soit par téléphone au 33 1 84 22 75 75 ou sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé, Didier Bleu, à C'est tout ça maqué et à lundi.